BFM Bourse, Tech Stocks. Guillaume Sommerer.
Tout un stock d'actions pour investir dans la tech. Pendant 27 minutes, on va vous apporter des idées de pépites et on tentera de faire de vous des insiders. Nos goûts de la tech cette semaine, ils sont là. Stéphane Houry, analyste tech pour Odo BHF. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver, ainsi qu'Axel Cabrol. Bonjour Axel.
Bonjour, ravi d'être là.
Directeur général de Tobam, welcome on board. Chaque vendredi, à cette heure-ci, oui, BFM Bourse prend de l'avance sur la tech boursière grâce, messieurs, à votre expertise. Dans un instant, vous nous livrerez vos pépites méconnues. Mais d'abord, dans l'actu. Ça, c'est pour ceux qui ont raté la semaine. Alors, je préviens nos auditeurs et téléspectateurs, on va pas trop parler de SpaceX cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'on en parle beaucoup aussi dans le reste de l'émission. Donc, vous pouvez retrouver nos podcasts, nos replays. Et parce que, alors, la semaine prochaine, vous inquiétez pas, on en parlera tout le temps. Donc, dans la semaine, là, qu'est-ce qui vous a, à part SpaceX, l'un et l'autre, le plus marqué ou bluffé dans la tech? Stéphane.
Alors, moi, je commencerai par STMicroelectronics, qui est un sujet que j'aime bien et que je pousse depuis pas mal de temps, puisqu'ils ont, juste avant le début d'une conférence, donc ils savaient qu'ils devaient communiquer auprès des investisseurs, ils ont mis à jour leur prévision de chiffre d'affaires dans les data centers. Alors, dans les data centers, c'est surtout de la photonique, un peu de microcontrôleurs, mais beaucoup de photonique, et ils ont confirmé qu'ils feraient 1 milliard de chiffre d'affaires cette année, et l'année prochaine 2 milliards. Et ils ont confirmé également qu'ils avaient globalement sécurisé les capacités de production. C'était la condition qu'il fallait pour confirmer ce chiffre. Alors c'est un chiffre qu'ils avaient plus ou moins donné déjà, mais il y avait une incertitude sur leur capacité à monter en puissance assez rapidement. Et sur 2027, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas dit 2 milliards, ils ont dit 2 milliards au moins. Donc, ils se donnent une sorte de marge de manœuvre pour faire plus l'année prochaine. Et ça va très vite. L'année dernière, c'était 350 millions de dollars de chiffre d'affaires.
Oui, en fait, STMicroelectronics est en train de changer de profil en bourse. On peut carrément le voir comme ça.
Hein, oui, complètement. Bah, en fait, il y a deux opportunités. Alors, on a dit qu'on parlait pas de SpaceX, mais
on peut.
La première opportunité, c'est les data centers, la photonique. C'est 1 milliard cette année, 2 milliards l'année prochaine. Et il y a aussi les satellites à basse orbite. Et là-dessus, ils font déjà 600 millions de dollars avec SpaceX, Starlink. Ils vont faire à peu près 1 milliard cette année, et ça va continuer derrière parce que ils ont des nouveaux clients, Amazon, Lio, et puis ils ont aussi des Chinois, donc c'est quelque chose qui va représenter plusieurs milliards de dollars, qui, additionné au chiffre d'affaires data center, va clairement changer le profil du groupe. On pense que ce type de revenu va représenter environ 25 à 30% du chiffre d'affaires total du groupe, le reste étant de l'automobile, de l'industrie, et puis des smartphones, oui, avec Apple.
25 à 30%, c'est vraiment énorme.
En 2028.
Oui, dans 2 ans, an et demi, ça va très vite. Bon, les choses sont en train de s'accélérer. STM vient de vivre une phase magnifique, même si aujourd'hui c'est la lanterne rouge du CAC. Il faut bien que ça respire de temps en temps. Mais il y a eu Broadcom aussi quand même cette semaine qui est passé par là et qui a jeté un froid. Le titre a beaucoup souffert à Wall Street. Il perd encore Broadcom aujourd'hui, 4% en ce moment sur le marché américain. Alors que la publication était bien, les prévisions aussi. Mais là, le marché en attendait plus. Il y a eu un effet Broadcom négatif pour la tech, oui, cette semaine.
De manière générale, c'est pas une mauvaise idée de souffler un petit peu, que le marché montait en ligne droite, mais c'est vrai que ce qui s'est passé avec Broadcom, c'est pas un drame non plus. Ils ont guidé sur 16 milliards de revenus IA au Q3. Le consensus attendait 17 milliards. Bon, c'est 1 milliard sur un trimestre. Et puis, ils n'ont pas relevé leur guidance sur 2027, alors qu'effectivement, eux aussi avaient confirmé avoir la capacité de production. Donc, voilà, c'est pas d'upgrade de prévision et égale prise de profit. Je ne suis pas sûr que ce soit que Broadcom qui explique la phase actuelle de prise de profit, mais en tout cas, ça l'a enclenché.
Voilà, ce que vous avez repéré, ce qui vous a le plus bluffé, vous, Stéphane, cette semaine dans la tech. Axel, vous suivez la tech, mais alors par un autre prisme, le prisme crypto en l'occurrence, mais il se trouve qu'il y a des valeurs cotées hein, sur le marché liées au crypto.
Absolument.
Qu'est-ce qui a fait sensation cette semaine? Qu'est-ce qui explique peut-être aussi en partie la chute du Bitcoin? Je dis la chute, le plongeon, on est à 60 300 dollars en ce moment, c'est-à-dire qu'en 10 jours, le Bitcoin a perdu 18 000 dollars.
25%, ouais. Ouais, c'est très impressionnant. Je voulais revenir là-dessus parce qu'effectivement, c'est un mouvement brutal. Alors, à l'échelle de ce que c'est que Bitcoin, on va dire, ça fait partie du jeu, on a déjà vécu ce genre de choses. Mais je pense que ça vaut la peine de remettre un peu en perspective avec ce qui s'est passé. Et le déclencheur, alors le Broadcom du Bitcoin, d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, en début de semaine. Et c'est lié à Strategy. Donc Strategy, c'est la plus grosse Bitcoin Treasury Company mondiale, c'est-à-dire une entreprise qui accumule du Bitcoin à son actif et qui détient aujourd'hui à peu près 4,5% de l'ensemble du supply. Ce qui se passe, c'est que Strategy a innové l'an dernier, a créé de nouveaux instruments qu'ils appellent du digital credit, qui en fait n'est ni vraiment digital ni vraiment du crédit, parce que ce sont des actions de préférence. Mais l'idée, c'est vraiment de se positionner comme une entreprise qui, un peu comme une banque ou une assurance, transforme le profil de risque du Bitcoin, qui peut être très impressionnant, gros rendement à long terme, mais aussi un risque à court terme qui est très très élevé, en des instruments qui ont un profil de risque beaucoup plus faible et qui versent un revenu régulier.
Excusez-moi, est-ce que vous pensez que ce signal de vente, qui était quand même, c'était 34 bitcoins, c'était pas...
32,
c'était pas
mais c'est rien du tout.
Et ça s'était déjà passé il y a 4 ans, si j'ai bonne mémoire. Il
en dans un contexte très différent.
Ouais. Dans un contexte très différent.
Absolument.
Est-ce que vous pensez que c'était le signal pour que tout le monde vende? Ça paraît...
Alors moi, je ne le pense pas du tout. Je pense que c'est une incompréhension complète. Je ne suis pas convaincu qu'ils aient été très clairs dans leur communication et dans leurs intentions, stratégie. Ah. Je pense qu'ils ont raté quelque chose. Je pense que quand on veut délivrer de la prévisibilité sur certains instruments, il faut mieux expliquer avant de faire. Et ça a été un symbole qui tombait. Donc je pense que si, clairement, ça a été un signal, parce que stratégie est très regardée, que le marché n'a pas compris. Maintenant, après, effectivement, il y a un mécanisme de liquidation qui s'est mis en place. C'est classique sur Bitcoin. Ce qui fait que les 10% se sont transformés en 25% assez rapidement. Pour autant... Moi, je pense que la thèse sur Bitcoin reste complètement valide à long terme, à savoir c'est un des actifs qui va résister à l'inflation, de l'inflation monétaire, on en a partout. Et ces instruments de crédit digitaux ou crédit digital sont un succès historique. Strategy est devenue en moins de 18 mois le plus gros émetteur d'actions de préférence aux États-Unis. Ils ont levé 15 milliards de dollars. Et la volatilité sur ces instruments-là aujourd'hui, c'est moins de 5%. Donc l'histoire est loin d'être terminée. Et l'accumulation de Bitcoin par stratégie est loin d'être terminée aussi. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul.
D'accord, c'est pas parce qu'ils en ont vendu 2-3 que la promesse de mettre Bitcoin au cœur de la trésorerie est abîmée profondément. D'accord.
Pourquoi ils ont vendu 2-3? Parce qu'en fait, les agences de rating qui s'intéressent à ces instruments d'un point de vue crédit, elles veulent s'assurer que le collatéral est liquide, peut être traité. Et donc quand on leur dit « moi je ne vendrai jamais mon actif », ça leur fait peur, ça leur pose problème.
C'est ça. Il fallait montrer qu'ils étaient capables de vendre une partie de leur trésorerie pour prouver que cette trésorerie est liquide, ce qui est une condition pour intégrer le S&P 500, par exemple. Et c'est une des quêtes de stratégie, en l'occurrence.
Et donc, ils essayent de séduire tout ce monde institutionnel de la finance sur leur capacité à gérer du crédit, d'une certaine manière, à délivrer des volatilités faibles. Et ce faisant, je pense qu'ils ont mal expliqué ça en amont aussi.
Bon.
Ils ont cassé un tabou, voilà.
Et voilà, résultat, Bitcoin qui aura aggravé ses pertes là sur la semaine. Ça montre aussi à quel point Bitcoin dépend d'un acteur, stratégie là. On disait au début du Bitcoin, c'est hyper décentralisé face aux banques centrales, Bitcoin hyper décentralisé. On voit que certains acteurs quand même en détiennent suffisamment pour à eux seuls faire pencher le marché.
Disons qu'ils sont très regardés. Après, les 32 Bitcoin eux-mêmes n'ont pas eu d'impact. Mais
ils ont eu un marché,
c'est un marché qui est très, comme l'ensemble des marchés, qui est très mimétique. Voilà.
Alors messieurs, ce dont on vient de parler, on parlait donc la Bitcoin, crypto, on parlait LST Microelectronics, des semi-conducteurs, de Broadcom qui ont publié cette semaine, tout ça est encore relativement mainstream. Sauf que TechStock, c'est vraiment le moment où on échange dans le secret de la tech. Vous nous livrez vos indiscrets. Pouvez-vous faire de nous des insiders, s'il vous plaît? Livrez-nous des secrets. Sous les radars, que tout le monde a une annonce dans la tech passée inaperçue ces derniers jours, ou une rencontre que vous avez eue, une discussion peut-être confidentielle avec un grand dirigeant de la tech ou un ingénieur comme ça, un génie. Discussion confidentielle que vous n'êtes pas supposé partager, sauf avec les auditeurs de TechStock. Est-ce que c'est possible, Axel?
Moi je voulais vous parler, faire un petit pas de côté, et parler un petit peu macro à propos de la tech. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène complètement historique qu'on est en train de vivre sur les marchés menés par la tech? Et c'est une petite anecdote qui vient d'un échange qu'on a. Enfin, il se trouve que Tobam travaille de longue date avec des fonds de pension et des asset owners de long terme. Et dans les échanges qu'on a avec des allocataires de long terme, il ressort qu'il y a plusieurs grands risques aujourd'hui que ces gens-là ont en tête, notamment la concentration des marchés autour de la tech, mais pas que. Aussi, tout ce qui tourne autour de la dette publique. Et ce qui m'a très étonné, c'est qu'il y a une espèce de conflagration entre les deux, autour d'un débat, autour d'une interview que Gita Gopinath a donnée il y a quelques jours.
Qui est Gita Gopinath? Vous allez nous la faire découvrir. Est-ce qu'elle a dit? C'est pour ça que c'est elle qui le dit. C'est pour ça que c'est très intéressant.
Voilà, exactement. Donc, c'est pas du tout n'importe qui. Donc, c'est une académique, bien sûr. Elle est professeure à Harvard. Oui. Elle a beaucoup publié. C'est une macroéconomiste. Mais c'est surtout l'ancienne chief economist du FMI et l'ancienne numéro 2 du FMI. Je crois qu'elle a, depuis, elle est revenue au monde académique en.
Et qu'est-ce qu'elle dit de la solvabilité des États, alors?
Et donc, ce qu'elle dit, elle dit deux choses qui m'ont vraiment frappé. La première, c'est que la solvabilité de la dette américaine, parce qu'elle parlait des États-Unis surtout, mais je pense que ça s'applique un peu au-delà de ça, est en fait, vu les niveaux de taux qu'on a, très dépendante de ce qui va se passer sur l'IA et sur la tech. Est-ce que l'IA va délivrer ses gains de productivité ou pas? Donc j'ai trouvé le lien tout à fait frappant.
La solvabilité des États-Unis dépend en partie de la productivité de l'IA, donc.
Alors, en tout cas, s'ils restent sur les niveaux de déficit actuels, mm-hmm. et continuent D'accord. sur leur politique actuelle. Mais oui, tout à fait. Et la deuxième chose qu'elle dit qui est très frappante, c'est que finalement, parce que nous, d'un point de vue européen, on a l'impression d'être quand même un petit peu plus vertueux que les Américains. Enfin, c'est souvent le prisme qu'on peut avoir. Ça on n'a pas l'IA, mais on a un peu plus de vertu budgétaire parfois.
Ça dépend qui. Oui. Alors, allez-y.
Ça dépend qui. Mais et donc, dans ce qu'elle expliquait, c'est que le marché actions américain est aujourd'hui très détenu par les étrangers aussi. C'est que finalement, le tiers de la capitalisation du S&P, si on prend ça comme référence, c'est détenu par les étrangers. Et évidemment, ce que les étrangers vont chercher aux États-Unis, c'est quoi? C'est l'exposition à la tech et à l'IA, qui représente plus du tiers aussi du marché. Et donc voilà, sa formule, c'est en fait, nous sommes tous ensemble dans le même bateau.
Oui. Cette histoire. Et que l'IA, elle en a gros sur les épaules, hein, en l'occurrence. Elle Absolument. Tient la solvabilité américaine, d'après l'ancienne chef économiste du FMI, et aussi l'attrait des investisseurs internationaux dont dépend tant Wall Street. C'est l'IA qui porte tout ça. Intéressant ce que vous nous livrez et partagez aujourd'hui. Stéphane, à vous, dans les secrets de la tech, une conversation, un chiffre que vous avez vu, quelque chose absolument hallucinant qui, même si vous êtes un vrai spécialiste de la tech et des semi-conducteurs, vous a vous-même interpellé.
Alors, un chiffre, c'est 90%. 90% de croissance du marché des semi-conducteurs cette année. C'est ce qu'a publié l'association WSTS aujourd'hui. Notre précédente prévision, c'était 60%. Donc, on prend 30% en un mois, on va dire. C'est évidemment porté par le marché de la mémoire. Et donc, c'est lié à l'IA, c'est lié au data center. Et le marché de la mémoire est en croissance de 250% cette année et va représenter 50% du marché des semi-conducteurs. C'est du jamais vu, en fait, cette croissance, un quasi-doublement du marché du semi en un an, beaucoup par les prix, parce qu'il y a des pénuries, il y a des shortages dans la mémoire, mais il y a aussi maintenant des pénuries, et c'est documenté, chez les fabricants de semi-conducteurs plus classiques, comme TSMC, Samsung, pour les nœuds les plus avancés, et même pour les nœuds on veut de gravure un peu inférieure, c'est-à-dire que TSMC a été obligé de remettre du CAPEX à 3 nanomètres, qui est la génération précédente, et ça aussi, c'est du jamais vu. Donc ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. Et la deuxième chose, c'est une conversation. Vous savez, en tant qu'analyste financier, on a régulièrement des roadshows. Donc j'ai eu la chance de discuter avec les gens de ARM Holding, ARM, qui est une vraie réussite sur le marché récemment, puisque le cours a plus que doublé. Et en fait, leur thématique, c'est d'expliquer que l'agentique rend le CPU great again. C'est-à-dire que jusque-là, c'était les GPU pour entraîner les modèles, qu'il y avait quand même besoin de CPU, mais qu'aujourd'hui, avec l'IA agentique, on va avoir besoin de 4 fois plus de CPU.
Donc CPU, on peut rappeler, par exemple.
C'est les microprocesseurs classiques que vous avez dans un PC, par exemple, et qui sont moins puissants que des GPU, mais qui sont très bien pour certaines tâches, et notamment pour gérer les tokens d'accès au data center. Et donc, comme on rentre dans cette phase d'IA agentique, on a besoin de beaucoup plus de CPU pour gérer ces tokens. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, assez lié avec l'évolution du marché qu'on a vu depuis le mois d'avril, à savoir qu'enfin, on a compris comment l'IA allait se monétiser. via les tokens qui vont être payés par les entreprises, par les individus aussi, mais surtout par les entreprises, et qui vont coûter très très cher. Et donc cette validation du business case de l'IA, en fait, à mon avis, a certainement contribué largement à faire exploser tous ces stocks de façon unanime.
Et vous êtes dans la team bulle ou pas, là, sur tous ces stocks dont vous parlez, les semi-conducteurs ?
Non, je pense qu'on est dans un... Est-ce que les attentes montent trop vite par rapport à l'usage réel ? Peut-être, probablement, et ça, on peut jamais vraiment bien le sizer. Mais je pense qu'on est dans un moment très particulier où dans 5 ans, on se posera plus la question. Et les infrastructures, elles sont construites aujourd'hui. Donc oui, il peut y avoir de la volatilité, c'est sûr. Mais les multiples de valorisation qui sont couverts, on va dire, par les profits générés. Donc les cours sont couverts par les profits générés. Donc les multiples sont élevés. Mais pas incroyablement
élevé.
Il n'y
a pas de surstock dans l'univers des semi-conducteurs, etc. Non. Parce que la peur du goulot d'étranglement, donc on y va beaucoup aujourd'hui pour moins y aller dans 2 ans.
Alors on est très très loin, par exemple, dans la mémoire, ça peut arriver un jour, hein. Mais dans la mémoire, on a un écart quasiment de 50% entre l'offre et la demande aujourd'hui. Donc ça, la pénurie de mémoire, elle va durer jusqu'à 2028. Ouais. De plus en plus, on dit jusqu'à 2029 et certains se risquent à dire 2030.
Comment vous regardez ça, Axel ? Alors vous êtes plus crypto, mais il y a des liens de plus en plus. Et on parlait de token, ça se paiera en token. Donc allez-y.
Ouais, on parle de token, donc ça forcément... Non, moi je pense... Alors il y a plusieurs choses. Moi je suis complètement d'accord sur le fait que c'est une révolution et qu'il y a un effort sur les capacités et qui sont des capacités finalement assez physiques derrière, qui est très important. Et c'est quelque chose de complètement historique, donc par essence très difficile à pricer. Maintenant, je pense que le marché s'est aussi beaucoup transformé. Le marché action s'est beaucoup transformé. Il s'est un peu aussi gamifié. Il ressemble plus à la crypto qu'on connaît qu'au marché d'action de nos parents. Mmh. Et ça, ça a des effets sur le pricing. Donc effectivement, ce qu'on voit là depuis 2 jours sur les semis, par exemple, sur une news sur Broadcom qui effectivement ne remet pas en question le trend global, c'est des choses qui sont coutumières de ce type de fonctionnement.
Et c'est vrai, ça vous rappelle un peu le marché crypto, c'est des groupes qui d'un coup prennent 40%, le lendemain moins 20%, vous vous sentez chez vous là d'un coup. Ah, mais c'est intéressant, et c'est aussi effectivement le poids des particuliers croissant, notamment là-bas aux États-Unis, lié à cette gamification de la bourse. Bah oui, c'est la démocratisation, puis on voit ici aussi d'ailleurs que les jeunes s'y intéressent de plus en plus. Ça redevient trendy hein, la bourse, ça c'est une bonne nouvelle. Intéressant vos indiscrets, mais Techstock c'est pour passer à l'action dès lundi. Là. Dès la semaine prochaine, il faut agir quand on investit dans la tech en bourse. Ceux qui agissent aujourd'hui feront les standards de demain. Alors, on passe à l'action, les amis.
Antoine. Stéphane, vous nous aviez parlé de PVA Tepla.
Exact.
On est dans la métrologie.
Oui.
Et alors, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, depuis le début de l'année, ça marche plutôt bien. Mais depuis la dernière fois qu'on en a parlé, ça s'est un peu, aplati la performance, mais ça suit un peu ce qui se passe sur le marché en général, sur la tech en général, mais on est toujours dans une phase d'expansion du chiffre d'affaires assez forte, puisque on attend toujours un doublement du chiffre d'affaires. Alors c'est une petite société allemande hein, qui fait de la métrologie, c'est des systèmes de contrôle des wafers, et ils ont une technologie acoustique qui permet de contrôler très précisément, et c'est bien pour les nœuds les plus avancés, et puis pour la mémoire HBM, donc la mémoire qui est utilisée dans les data centers. Donc on est très confortable, très confiant sur le fait qu'ils vont doubler leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu cher, on est à 30 fois l'EBITDA, mais si on tient compte des prévisions qu'on a et qu'on croit leur doublement de chiffre d'affaires d'ici 2028, on retombe à 12 fois, ce qui est assez raisonnable et d'où notre position positive dessus.
Et Axel, vous aussi, c'est un petit nouveau Robinhood.
Oui, je ne sais pas si c'est si nouveau, mais tout à fait. Robinhood, Robin des Bois. Ce que je trouve
pour vous, c'est une pépite, sérieusement, Robinhood. C'est une pépite.
C'est une pépite au sens où je trouve que c'est surtout leur business model que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en train de transformer complètement l'accès à la finance, c'est ce qu'on vient de dire. Et finalement, ils proposent à des particuliers américains un niveau d'accès, et aussi à des professionnels hein, d'ailleurs, un accès qui est équivalent et qui est même plus large à ce qu'on a en tant que professionnel. C'est-à-dire qu'on a accès à des actifs privés, via la tokenisation, un accès à de l'IA intégré. Enfin, ils sont extrêmement innovants. Et ils sont acteurs. C'est, je pense, l'acteur le plus en pointe de cette transformation du marché depuis 2020 à peu près, qu'on a vu complètement transformer la manière dont traite le marché actions américain. et aussi un acteur évidemment de la convergence, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, la convergence entre le monde crypto via la tokenisation et le monde de la finance traditionnelle.
Oui. Et c'est intéressant de les voir par exemple sur l'introduction en bourse de SpaceX la semaine prochaine, Robinhood, puisque contrairement à beaucoup d'autres plateformes d'investissement, Robinhood n'imposera aucun solde minimum à ses clients pour acheter le titre SpaceX, alors que d'autres au contraire vont réclamer un solde minimum histoire de mettre de demander à leurs clients est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir y aller quoi.
Ils sont très innovants et c'est les premiers aussi à mettre en accès aux États-Unis à leurs clients les marchés de prédiction. Ça a été les premiers aussi via la tokenisation à donner accès à certaines entreprises non cotées via de la tokenisation sans forcément avoir d'ailleurs la validation des entreprises elles-mêmes. Donc ils sont comme ça très dans l'innovation de rupture pour accélérer la démocratisation. Bon. On verra comment ça fonctionne. Je pense que c'est eux qui ont raison et qui vont emporter les parts de marché.
À la fin, les derniers seront les premiers, c'est ça votre idée? Parce qu'il y a toujours une forme de mépris du marché vis-à-vis d'un groupe comme Robinhood.
Mais parce qu'en fait, ils partent du particulier. Ils parlent d'abord, enfin, ce qu'ils défendent, c'est les intérêts des investisseurs dits les moins sophistiqués. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils donnent les moyens à ces investisseurs comme vous et moi d'accéder à l'information et de faire les choses bien. Et à toutes les opportunités d'investissement. Ce qu'ils ont fait sur l'IA aussi est très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des agents qui peuvent gérer votre portefeuille, gérer vos paiements, tout ça avec de la sécurité. C'est très, très impressionnant.
On va regarder le potentiel technique de tout ça. Voilà deux pépites que vous nous proposez. Mais en bourse, si on investit dans la bonne valeur au mauvais moment, c'est pas bien. Le timing et l'analyse graphique, ça compte. Le Trade Tech, notre trader Valentin Nico est avec nous. Bourse Direct. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume.
Vous allez nous dire ce qui relève de la tech tonique, la tech qui garde du potentiel, puis la tech en toc, celle qui risque de s'essouffler. On démarre par le Nasdaq. Aujourd'hui, il perd 2%. 2% de baisse, le Nasdaq, c'est pas tous les jours. C'est vrai qu'on a eu un rapport sur l'emploi américain qui plaide pas pour des baisses de taux. Alors c'est peut-être aussi le déclencheur de cette baisse du Nasdaq. Est-ce qu'après la hausse des dernières semaines, le Nasdaq devient de la tech en toc, d'après vous?
Alors nous, sur la dernière jambe de hausse, on sentait qu'il y avait un peu d'euphorie par plusieurs indicateurs, notamment le ratio call-put. On sentait qu'il y avait très peu de protection dans ce marché. Et on s'attend à une réintégration donc du canal haussier de 2022. Donc de notre côté, on serait pas surpris par une prise de bénéfice et une correction de 5-6% à court terme. Donc on est très méfiant depuis en fait la sortie par le haut de ce canal et on attend de le réintégrer avant de chercher certains dossiers. Donc plutôt méfiant.
Alors Valentin, on voit que depuis quelques jours, la tendance est quand même relativement négative sur la tech, notamment la tech américaine. Est-ce qu'il y en a une qui se distingue quand même par ces dynamiques haussières?
En tout cas, l'euphorie, vous êtes au courant, c'est donc toute la thématique IA et notamment les semis. Donc si on devait forcément acheter aujourd'hui un dossier, on irait sur Netflix, qui revient sur $80 à peu près, 80-46, et on viserait un retour vers les $100 à court moyen terme. Et voilà. Donc on irait plutôt sur ce dossier si c'était aujourd'hui.
On peut dire que c'est disruptif ça comme scénario. Cela dit, parmi ceux qui ont une tendance franchement négative, vous relevez quel cas particulier?
Alors nous, c'était pas une tendance forcément trop négative parce que on va viser la prise de bénéfice sur les dossiers semis, notamment Qualcomm qui fait une belle baisse aujourd'hui, 5-6%, et on s'attend à un retour au $200, on viserait $200, on est actuellement à $230, voilà, donc ça ferait un petit bénéfice tout de même.
Valentin Nico avec nous pour Bourse Direct, merci beaucoup. Valentin, merci. Dans TechStocks, la tech prend le pouvoir et Axel, Stéphane, Antoine, la tech vous pose sa question. Ah, c'est la question. Ça, c'est le vendredi dans TechStocks. L'IA pose elle-même sa question. On lui demande, en fait, c'est à Gemini, là, aujourd'hui, qu'on a demandé de vous poser une question liée à l'actualité et à SpaceX. On inverse les rôles, quoi. On en a marre, l'IA, qu'on parle tout le temps d'elle. C'est elle qui vous interroge ici. Est-ce que vous êtes prêt?
Oui.
Axel, alors, voici la question de Gemini. L'introduction en bourse de SpaceX dans une semaine pourrait-elle siphonner les liquidités disponibles pour le reste de la tech et entraîner pourquoi pas des ventes sur le Bitcoin pour aller financer cette introduction en bourse? Alors, Axel.
Des ventes sur le Bitcoin, je pense pas, mais on n'a jamais vu de telles IPO. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu autant, mais en fait, on n'en a jamais vu de telle taille. Donc oui, c'est un risque, très clairement. Je pense que le risque aussi, c'est tout ce qui va se passer après l'IPO, hein, avec beaucoup d'insiders qui pourraient, une fois que les lock-ups sont passés, revenir, vendre aussi, profiter de la nouvelle liquidité sur le titre. Maintenant, honnêtement, on parle de beaucoup d'argent en milliards de dollars, mais à l'échelle de la capitalisation mondiale, c'est pas non plus si énorme que ça. Donc voilà, moi je suis plus inquiet des valorisations que, en tout cas sur SpaceX, que véritablement d'un impact sur la liquidité.
Et vous, est-ce que certains qui ont des belles plus-values dans les semi-conducteurs, votre secteur fétiche, Stéphane, voudront prendre leurs plus-values, les utiliser pour investir dans SpaceX ?
Il y en a forcément qui vont le faire, mais je suis assez d'accord. C'est bon, c'est un risque. Il y a quand même des gros IPO hein, qui arrivent derrière, donc je pense qu'ils ont quand même réfléchi à ça et donc normalement c'est backé. Mais effectivement, je suis assez pas inquiet, mais on va regarder ce qui va se passer derrière. L'aftermarket va être intéressant, sachant que bon, voilà, les prévisions des analystes, en tout cas ce qui filtre dans la presse, voilà, sont bien gonflées et donc on a l'impression que ça va partir positivement au début, puis après il va y avoir un reality check et ça c'est dangereux.
Oui, on rappelle que SpaceX finalement n'intégrera pas le S&P 500 avant au moins 12 mois, alors qu'il intégrera le Nasdaq au bout de seulement 15 jours. L'indice S&P choisit de ne pas changer ses règles, même si c'est SpaceX, alors que l'indice Nasdaq au contraire va changer les siennes. On en reparlera dans un instant dans la suite de BFM Bourse. Vous suivrez quoi d'autre la semaine prochaine, Stéphane ?
On va continuer de regarder les résultats qui sont des... même s'il y en a moins la semaine prochaine, mais il y aura au moins Oracle, qui est un acteur intéressant parce que c'est également... Ils sont vus aussi comme un hyperscaler et ils sont aussi vus comme ceux qui dépensent beaucoup plus que ce qu'ils ont pour courir dans cette course et donc voilà, je pense que c'est un point de référence important.
Oracle à suivre côté Stéphane, et vous Axel, qu'est-ce que vous suivrez ?
Alors moi je vais suivre aussi la même chose hein, parce que je pense que ouais. Là tout ce qui se passe sur les semis c'est très très important pour juger un petit peu de l'état du marché en général, mais je vais suivre aussi ce qui se passe côté crédit digital, stretch et stratégie qui à mon avis va donner le ton sur le timing du rebond potentiel sur Bitcoin.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Axel Cabrol, directeur général de Tobam, et Stéphane Houri, analyste tech pour Odo BHF. Bon week-end, cet épisode de Tech Talks est à retrouver en podcast et en replay tout au long de la soirée du week-end. N'hésitez pas à en parler à vos amis. On est dans le futur hein, dans Tech Talks.